RCF.
Avec ses près de 34 840 communes, la France métropolitaine bat le record en Europe. Aucun autre pays n'en compte autant. Nous nous régalons avec leurs noms aux consonances parfois drôles ou grivoises et nous adorons savoir que Castelmoron-d'Albret en Gironde est la plus petite commune de France avec ses 3,54 hectares ou que Rochefourchat dans la Drôme est la moins peuplée puisqu'il semblerait qu'elle n'ait qu'un seul habitant. Mais au fond, que savons-nous de l'histoire de nos communes, de leur administration et puis de leur découpage territorial? Nous allons essayer d'éclairer tous ces points avec vous, Claude Motte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS. Vous assurez la direction d'un ouvrage consacré à l'étude du passage aux communes telles que nous les connaissons aujourd'hui et vous vous intéressez à bien d'autres aspects de l'histoire des communes et notamment aussi à une carte de Cassini. J'aimerais tout d'abord que vous précisiez justement votre métier, votre travail et puis finalement cette passion que vous avez pour la constitution des communes françaises. On va essentiellement d'ailleurs parler de la France métropolitaine, Claude Motte.
L'origine de ma passion pour ces communes, je pense qu'elle provient de la responsabilité que m'a donnée tout au début de ma fonction, le directeur du laboratoire de démographie historique de l'époque, de coordonner et diriger cette collection des paroisses et communes de France. Au début, c'était un travail essentiellement d'édition, c'est-à-dire qu'il fallait que je vérifie l'exactitude des données qui m'étaient communiquées par les auteurs de ces ouvrages. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à la chair, à l'humain qui est derrière.
Il y a des gens derrière, quoi.
Il y a des gens derrière. Et je me suis souvent interrogée sur le pourquoi telle commune fusionne avec telle autre et pourquoi pas telle autre avec telle autre. Et je me suis dit qu'il devait y avoir sans doute un paramètre géographique qu'il fallait regarder sur le terrain. Et la carte de Cassini m'est apparue à ce moment-là comme le document, enfin le matériau le plus fiable et surtout le plus imagé.
En deux mots, cette carte de Cassini, qu'est-ce que c'est ?
Alors cette carte de Cassini, c'est un trésor du patrimoine national qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Bien sûr, il y a plein d'autres exemplaires ailleurs, mais celle de la Bibliothèque nationale est dite carte de Cassini, propriété de Marie-Antoinette. Alors cette carte de Cassini a été établie entre 1745 et 1790, en gros, et son intérêt fondamental, c'est qu'elle est, pour la première fois dans l'histoire de la cartographie du monde, établie sur l'ensemble d'un territoire très vaste comme celui du royaume de la France de l'époque, c'est-à-dire hormis Nice et la Savoie, et la Corse, mais pour d'autres raisons, et elle figure à son échelle, c'est-à-dire 1/86 millième, le détail de la dispersion et de la répartition du peuplement sur le territoire de l'époque. C'est-à-dire qu'elle figure toutes les villes, tous les bourgs, les paroisses, les clochers des paroisses, les moulins, les châteaux, les abbayes, les ponts. Elle dessine le tracé des rivières, des routes, et tout cela appuyé sur des levées qui ont été établies d'après la triangulation géodésique. Alors je n'ai pas rentré dans le détail, c'est très compliqué, mais ces levées de triangulation géodésique permettent de comparer la carte de Cassini à la carte d'aujourd'hui.
Un document fiable et qui est un indicateur particulièrement précieux de la France de l'époque.
Absolument.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Alors entrons dans le vif du sujet, Claude Motte. Là, vous avez déjà utilisé un certain nombre de termes, un vocabulaire qui mérite qu'on s'arrête un peu dessus. Vous avez parlé de paroisse, de village, de bourg, de ville.
Oui.
Est-ce que ce sont des sortes de synonymes ou est-ce qu'il faut vraiment préciser chacun de ces termes qui définit à lui seul une réalité particulière ?
Alors, ce ne sont absolument pas des synonymes. Certainement pas sous l'Ancien Régime, mais même aujourd'hui. On ne peut pas comparer une ville comme Paris ou Lyon à un petit village comme Tillac, dont je suis issue, dans le fin fond du sud-ouest de la France. Ce sont des réalités qui sont différentes, c'est des réalités humaines différentes. Quoi qu'il en soit, avant de rentrer plus dans la définition de ce vocabulaire, je voudrais situer un peu l'image que nous allons développer en prenant comme exemple ou comme appui l'image de l'affiche électorale du président François Mitterrand en 1981, où on le voit posé devant une campagne qui est dominée par un village et ce village dominé par un clocher. Et c'était très astucieux parce que c'était comprendre à quel point la France est effectivement un pays de campagne, de villages et de clochers.
Et qu'elle y tient particulièrement. Il y a un gros symbole là.
Il y a un très gros symbole. Ce symbole vient des origines de la construction du maillage administratif de la France. Et on peut dire que cela remonte au premier siècle de la christianisation. 4e, 6e siècle, lorsque les premiers évêques ont commencé à évangéliser les campagnes françaises. Ils ont créé des paroisses qui s'appelaient des paroisses mères. Ce tissu de paroisses mères s'est subdivisé au fil de l'évolution de la population et s'est stabilisé. Certains historiens pensent même que à l'époque de Charlemagne, parce que Charlemagne d'abord a institutionnalisé la dîme, c'est-à-dire un impôt prélevé sur les récoltes, qui auparavant était payé par les seigneurs qui finançaient l'érection des paroisses, enfin des églises. Et vu les besoins grandissants de l'administration de la religion, il fallait trouver des financements.
Des finances.
Et donc la dîme a été imposée à ce moment-là. Et certains historiens pensent que dès l'époque de Charlemagne, le tissu des paroisses qui vont donner nos communes est pratiquement gravé.
Donc à ce moment-là, il y a une église et c'est autour de cette église que se constitue une sorte de bourg que les gens vont vivre.
Alors revenons, si vous voulez bien, sur justement le contenu de ces termes, ville, bourg, paroisse ou communauté, parce que je rajoute communauté de campagne, et village. On dit que les communes d'aujourd'hui sont issues des paroisses. C'est exact. Mais encore faut-il savoir ce qu'est une paroisse sous l'Ancien Régime. La paroisse est d'abord une assemblée de croyants réunis autour d'une église et d'un curé, mais c'est devenu avec Charlemagne un ressort fiscal, le territoire sur lequel les habitants sont imposés par la dîme. Lorsque l'administration royale s'est développée et que son administration a demandé de plus en plus de besoins financiers, elle s'est moulée pratiquement sans problème dans les ressorts paroissiaux pour imposer ses propres impositions, dont les plus connues sont la taille et la gabelle, imposition sur le sel, et ses paroisses religieuses, devenues paroisses fiscales par l'intermédiaire de la dîme, se sont encore plus devenues des paroisses fiscales par le prélèvement des impôts royaux. Donc, la paroisse est bien plus qu'une paroisse religieuse. C'est aussi un ressort fiscal. Et pour nous, historiens, démographes, ce qui est le plus important finalement, c'est que c'est un ressort de comptage de la population. C'est dans le cadre de ces paroisses, qu'elles soient religieuses ou fiscales, que la population, des siècles avant 1789, a été dénombrée.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Qu'est-ce que c'est qu'un bourg, Petmot ?
Alors, la paroisse donne naissance à la commune, mais la commune est issue aussi des villes et des bourgs. La ville se caractérise à l'origine par des enceintes, c'est une ville défensive, mais elle se caractérise aussi beaucoup par des chartes de privilèges. Et par exemple, elle ne paiera pas la taille. Elle étend sa juridiction sur ses campagnes alentour. Ça, c'est la ville. La ville est chef-lieu des organes des différentes administrations, l'administration religieuse, bien sûr, le diocèse, mais l'administration royale avec les intendances ou les généralités, l'administration judiciaire avec les parlements, les présidiaux, les sénéchaussées, est l'endroit où résidaient, où habitaient les personnes qui ne travaillaient pas la terre. Et sa caractéristique essentielle est d'être le lieu et le siège de foires et de marchés. C'est donc un centre de commerce, encore plus que la ville, parce que la ville aussi, bien sûr, est un centre de commerce. Mais c'est un centre, le bourg, qui peut aussi abriter des administrations inférieures à celles que je viens de citer et abritées par la ville. Et le village, alors le village, c'est plus la paroisse au sens ancien, c'est-à-dire...
On est dans l'Ancien Régime, là.
On est dans l'Ancien Régime. Hein. Et le village peut avoir une église, mais pas forcément. Le village est un regroupement d'habitations. Alors, vous allez me dire, il y a le hameau. Le hameau, c'est encore plus petit que le village. Mais le village, très souvent, est assimilé à une paroisse.
Claude Motte, la définition des bourgs, des villes, des villages et des paroisses, telle que vous venez de nous l'expliquer, correspond à celle de l'Ancien Régime. À partir de la Révolution française, les choses changent. Alors, dans quelle mesure changent-elles et sur quoi portent ces changements ?
Alors, ces changements changent sur tout, tous les niveaux de l'administration. En mai 1789, convocation des États généraux et dépôt des cahiers de doléances à Paris, le 14 juillet, prise de la Bastille, et surtout, la nuit du 4 août, suppression des privilèges. Donc, suppression des privilèges des villes aussi. Dès juin-juillet, ces députés qui ont été désignés dans les campagnes, dans les paroisses, se forment en assemblée constituante, constituée de 1200 députés, 300 pour le clergé, 300 pour la noblesse et 600 pour le tiers d'État, en gros. Le fin août 1789, après la nuit du 4 août, après la joie, viennent la crainte et les alarmes. Les lois sont sans force, les tribunaux sans autorité, les troupes prennent le désordre pour le patriotisme et le peuple la licence pour la liberté.
C'est une citation, ça ?
C'est une citation d'un député de l'Assemblée constituante en août 1789. Donc il fallait...
Mettre de l'ordre.
Il fallait mettre de l'ordre. Une autre déclaration de novembre 1789 d'un membre du comité de constitution. Toutes les provinces, toutes les villes, tous les citoyens ont applaudi à ces décrets régénérateurs qui substituent l'égalité politique de toutes les villes et des portions du royaume. Qui substitue cet État au monstrueux et contradictoire amas d'inégalités dont le temps, le hasard, les abus, les privilèges, la faveur ou le despotisme avaient composé le chaos. D'où la révolution de 1789, entre autres, il fallait mettre de l'ordre.
Donc et avec un souci d'équité et d'égalité.
Et d'égalité, absolument. Et donc, après les alarmes, après la joie viennent les alarmes, il faut rétablir l'ordre. Donc, une des premières décisions de l'Assemblée nationale est de décider qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, village ou communauté de campagne pour se constituer en municipalité indépendante.
Vis-à-vis de quoi et vis-à-vis
indépendante de qui ? Les unes par rapport aux autres. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sous l'Ancien Régime, bien sûr, par exemple, les campagnes qui entouraient les villes subissaient le joug de la ville. Et les paroisses subissaient le joug, plus ou moins agréable, de l'Église.
De l'évêque.
De l'évêque, du curé. Donc, il fallait se dégager de ce joug-là et surtout supprimer les privilèges. C'était ça. Une municipalité indépendante et le chef de chacune d'entre elles portera le nom de maire. Toute paroisse ou communauté cotisée à part, et je vais expliquer ce que c'est, a le droit de former une municipalité. C'est-à-dire que tous les regroupements d'habitants qui, sur les documents de la royauté, étaient identifiés en tant que tels, parce qu'ils payaient des impôts au nom de leur communauté, ont eu le droit de se constituer en municipalité. Par exemple, les communautés qui entouraient les villes, La ville était cotisée d'une autre manière. Elle payait pas la taille, mais quand même, elle payait des impôts par ailleurs. Mais les campagnes alentour se sont constituées en communautés qui géraient leurs intérêts propres, indépendamment quand même de la juridiction de la ville.
Ils sont venus pour me chercher et j'ai marché, marché.
Est-ce que ça correspondait aussi quand même à un découpage territorial ?
Non. Alors, les limites sont très, très floues à l'époque, même si les gens de l'époque savaient qu'ils dépendaient de telle paroisse, savaient qu'ils devaient payer les impôts à telle élection. Il y avait bien sûr des compois ou des terriers qui délimitaient des territoires. Les 10 dernières années avant la Révolution, certains intendants ont fait lever des espèces de cadastres, mais c'était pas du tout généralisé. Et donc, il y avait beaucoup de contestations, par exemple pour les biens communaux. Les droits de pacage, les droits de ramasser le bois dans les forêts. Il y avait beaucoup de contestations et beaucoup de procès à ce sujet.
Est-ce que ça a eu des répercussions, mais on y reviendra peut-être plus tard déjà, sur tout ce qui relève des registres paroissiaux justement et des registres administratifs ?
Oui, les registres paroissiaux étaient tenus par les curés. Registres des baptêmes, naissances et sépultures tenus par les curés de chaque paroisse et devaient déposer le double au greffe du bailliage et de la sénéchaussée, qui étaient les ressorts de la justice royale.
À partir de 1789, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, une loi du 20 septembre 1792 laïcise l'état civil, c'est-à-dire que les curés sont tenus de remettre entre les mains des maires nouvellement élus les registres qui ne s'appellent plus baptême, mariage et sépulture, mais naissance, mariage, décès. Donc cette étape, le septembre 1792, est très importante pour la constitution des communes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 89 et en 90, on constitue les municipalités, parce qu'il fallait à tout prix et le plus vite possible que le gouvernement établisse des nouvelles unités territoriales sur lesquelles prélever l'impôt, et à partir desquelles les élections pourraient avoir lieu pour élire l'Assemblée législative.
Mais se pose la question après du découpage.
Alors, le découpage, dès 1791, il y a une première mesure qui est prise, demandant aux paroisses de lancer des opérations d'encadastrement de leur territoire. Évidemment, ça coûtait très cher. Évidemment, il n'y avait pas le personnel partout pour faire ça. Ensuite, il y a eu le développement de la révolution, les guerres révolutionnaires. Donc, ce cadastre n'a jamais eu lieu. Et il a été repris par Napoléon en 1808. Donc, ces limites de ces entités ne sont connues pour nous, historiens, que par la liste des hameaux ou des fermes qui sont dites dépendantes d'eux. Nous n'avons pas de limite inscrite sur le territoire tel qu'on le connaît à partir du cadastre napoléonien qui a été établi pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'avant 89, les gens, les habitants, ne savaient pas. Il y avait des bornes, il y avait des arbres qui pouvaient signifier « là s'arrête mon champ, là commence le tien ». Mais il y avait des zones qui étaient...
C'était très flou.
Flou, Par exemple, les forêts, c'était beaucoup plus difficile de tracer une limite. Par exemple, les rivières et les droits de pêche, c'était très compliqué. Tu as pris mon poisson. Ah ben non, parce qu'il était plus près de ma rive. Voilà. Donc, il y avait des zones de territoire sur lesquelles les limites n'étaient pas déterminées. Mais autrement, oui, il y avait quand même une connaissance des limites avant.
Le fameux panneau qui indique l'entrée dans un village ou dans une ville avec son nom dessus, ça date de quelle période, ça ?
Ah ben ça, c'est plus récent.
C'est très récent.
C'est récent. Ça n'existait pas, bien sûr. Je peux vous donner une anecdote sur le nom de la commune, parce que c'est en relation justement avec une limite. Il existait en Yvelines, je crois, un village, une paroisse qui s'appelait Châtres. Et puis, au courant du XVIIIe siècle, le roi, qui avait besoin d'argent, donnait, contre moyennant finance, à certains seigneurs la propriété de certains endroits. Et les seigneurs avaient donc le droit, à ce moment-là, d'imposer leur nom de famille au territoire que le roi venait de leur attribuer. Et ce village de Châtres est donc donné dans la seigneurie du sieur Arpajon. Et Arpajon, monsieur Arpajon, était très intéressé à ce qu'on respecte son nom. Donc il avait posté à l'entrée du village, donc il savait bien où était l'entrée du village, des hommes à lui, armés de bâtons, et il interrogeait tous les habitants qui rentraient, qui passaient cette limite virtuelle, comment s'appelle le lieu où vous rentrez ? Si le voyageur disait « Châtres », il se faisait rouer de coups. Si il disait « Arpajon », il se laissait...
On
le laissait entrer. Donc les limites, vous voyez, il n'y avait pas de panneau de signalisation, mais les gens de l'époque les connaissaient quand même.
Alors Claude Motte, cette nouvelle organisation qui date de 1793, est-ce qu'elle change quelque chose concrètement dans la vie de ces nouvelles communes ?
Oui, le changement 1793 pour le nom de la commune, mais il faut envisager la refonte administrative des structures de la France dès 1789, puisque c'est dès janvier 1790 que toutes les anciennes circonscriptions de l'ancien régime ont été supprimées et que les départements ont été formés. Et ça, c'est extrêmement important. Les départements ont été établis en novembre, décembre, et fixés fin janvier 1790. Et à l'origine, il y avait 83 départements. Et après, le nombre a augmenté. Donc, au niveau des structures supérieures de l'administration, ça a beaucoup changé. Mais au niveau de la commune, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce sont les... Je vais vous donner des définitions de communes retrouvées au fil des débats des révolutionnaires de l'époque. Ce sont les citoyens unis par les relations locales. Ce sont les habitants qui ont des intérêts et des biens communs. C'est une commune. Définition de la commune, que je trouve très belle. La commune est à l'ordre politique ce que la famille est à l'ordre social. Dès le début, ils ont considéré que la refonte du tissu paroissial en municipalité puis commune avait un objectif unificateur politique. Une citation encore. La nécessité d'établir au plus vite les assemblées représentatives locales qui désigneront les membres des assemblées nationales est le seul moyen, le plus puissant et le plus prompt, de faire de toutes les parties de la France un seul corps et de tous les peuples qui la divisent, une seule nation. Et je peux rajouter, janvier 1793, « Tous les hommes sont frères et ne composent qu'une famille. Ils vont concourir de toutes les parties du royaume à la formation de leurs lois. Les règles et les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. »
Donc l'idéal révolutionnaire passe vraiment par cette
légalité,
y compris des communes.
Toutes les municipalités du royaume, soit de ville, ça c'est décembre 1789, toutes les municipalités du royaume, soit de ville, soit de campagne, étant de même nature et sur la même ligne, dans l'ordre de la Constitution, porteront le titre commun de municipalité. On était en décembre 89. Les hommes sont tous des frères et ils sont tous égaux. Alors après, il faut élire le maire et le conseil municipal.
Qui remplace le curé ?
Qui remplace de facto le curé. Mais plus que le curé quand même. Parce qu'il est responsable de la police, par exemple. Alors que le curé
ne l'était pas.
Pas vraiment, en tout cas. Même, bon. Donc là, il y a eu une évolution très rapide des modes d'élection des maires et des conseillers municipaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop aride. En 1790, pour l'élection des premières municipalités, le suffrage a été quasiment universel, mais appuyé sur les impositions. C'est-à-dire qu'ont eu le droit de voter pour constituer les premières municipalités les citoyens actifs qui payaient l'équivalent de 3 journées de travail. Et cette assemblée des citoyens actifs constituait une municipalité et ils avaient le droit d'élire en leur sein le maire. Ça, ça a été très vite repris en main par le gouvernement central parce que ça a provoqué beaucoup de difficultés. Et sous l'Empire, le Premier Empire, les communes ont été reprises en main par le gouvernement central. Le maire reçoit le statut de fonctionnaire, ce qui est important. Et le conseil municipal est nommé par le préfet sur délégation du gouvernement et par le premier consul pour les communes les plus importantes. Alors les plus importantes, il y avait un seuil, je crois que c'était 2000 ou 3000 habitants. Il faut attendre en fait. Alors 1831, on revient à l'élection censitaire, c'est-à-dire ce sont les citoyens imposés, les notables, qui ont le droit de voter pour élire le conseil municipal. Et le maire est toujours désigné par le préfet pour les petites communes. Et dans les grandes villes, le maire est nommé par le gouvernement. 1848, retour du centralisme avec Napoléon III. Et il faut attendre la loi de 1884, qui est une loi extrêmement importante, qui, elle, établit le suffrage universel et la désignation du maire par le conseil municipal et attribue à la commune, ce qui est aussi extrêmement important, le statut de personne morale de droit public distinct de l'État. Elle bénéficiera dès lors d'une autonomie juridique et patrimoniale.
Ce qui signifie
que la commune et le maire et le conseil municipal décident tout dans leur commune et que le gouvernement ou le préfet, par l'intermédiaire du préfet,
le représentant de l'État,
ne peut intervenir que a posteriori et non pas a priori. Auparavant, toutes les modifications qui pouvaient être demandées, construction d'un monument public, on en parla pour les mairies ou les écoles, tout ça devait passer par le préfet. Il fallait d'abord demander l'autorisation du préfet.
À partir de
1884, la commune gère en toute autonomie son budget et ses biens et son patrimoine.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Est-ce qu'on peut dire un mot déjà, on y reviendra aussi, mais des noms qui, à cette époque-là, sont attribués à certaines communes, la Révolution étant passée par là ?
Alors, mis à part l'épisode des non-révolutionnaires, qui n'a duré que quelques années, entre 1792 et 1796 à peu près, avec des noms pas possibles. Par exemple, la ville de Bourg-en-Bresse a porté 3 noms pendant la Révolution. Bourg-épurée, Bourg-fraternité ou commune affranchie. Et Lyon fut appelée commune affranchie, Marseille, ville sans nom, c'était son nom. Marseille se nommait ville sans nom et Bordeaux s'appelait commune Franklin. Allez savoir pourquoi. Donc il y a des noms révolutionnaires très rigolos, mais qui n'ont pas duré du tout. L'immense majorité des communes ont repris leur nom. Donc le nom a été repris immédiatement des dénominations qui apparaissent sur les listes des paroisses ou des villages de l'Ancien Régime. Simplement, la tension portée à leur orthographe est devenue de plus en plus importante. Et c'est par exemple le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, le frère de l'empereur, qui, lorsqu'il lance les opérations du recensement de 1806, qui est un recensement très intéressant, très détaillé, très utile, rappelle les maires et les préfets à l'importance et l'attention qu'ils doivent porter à l'orthographe des noms des communes. Parce que il existe énormément d'homonymies et ça perturbe beaucoup l'administration.
À quel moment est-ce que le mot de commune apparaît ou de municipalité ? Est-ce que de ce point de vue-là, il y a aussi un changement avec la Révolution dans la dénomination ?
Oui, comme je vous l'ai dit, là, une des premières tâches que se sont données les constituants, c'est l'établissement des municipalités, avec un objectif politique en fait. Il fallait élire le plus rapidement possible les membres de la future assemblée législative, parce qu'il fallait donner des nouvelles lois.
Donc les termes de paroisse et de bourg disparaissent. Paroisse.
Donc les municipalités ont perduré jusqu'en 1793, et le premier recensement national qui a été fait pendant l'année 1793, est fait dans le cadre des municipalités. Et ça va poser quelques problèmes, parce qu'une municipalité, c'est pas tout à fait une commune. Et donc, à la fin de 1793, les législateurs, c'était déjà l'Assemblée législative, ont décidé que toutes les dénominations de villes, bourgs et villages, paroisses ou communautés de campagne, seront remplacées par celles de communes, et leur chef sera désigné comme le maire. Donc véritablement, le terme de commune, même s'il existait sous l'Ancien Régime, mais avec un contenu un petit peu différent, il concernait d'ailleurs essentiellement des villes à l'époque, là, depuis 1793, la commune est née véritablement.
Et son maire ?
Alors, elle a son maire, elle a ses registres paroissiaux, enfin d'état civil, depuis 1792. Elle a le début d'un cadastre, mais à peine le début, et voilà.
La mairie fait donc partie des symboles forts d'une commune, Claude Motte. On parle également d'hôtel de ville. Il y a des symboles comme ça qui représentent à eux seuls la vie d'une commune, qui symbolisent tout ce que ça représente, cette vie en communauté. Qu'est-ce qu'on peut souligner dans ce registre-là, en plus de la mairie ?
L'école. L'école est très importante pour la commune. L'église reste le monument d'origine, hein, pour la plupart des communes. Mais l'école est un symbole très fort du développement des communes. Les gouvernements en France, en tout cas, ont toujours eu, mais depuis Charlemagne, qui a institué les premières écoles publiques, hein, ont voulu instruire la population. Et il y avait des écoles bien avant la Révolution. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et c'était des écoles paroissiales, qui étaient d'ailleurs tenues par le curé, hein, par l'église. Et puis, l'école a été construite essentiellement à partir de la loi de 1833, qui a enjoint à chacune des communes de plus de 5000 habitants de construire une école.
Un bâtiment
dédié à ça. Et l'injonction de construire une école, d'avoir un local réservé à l'enseignement de la population, a été de pair avec la construction des mairies. Parce que, comme je vous le disais, beaucoup de mairies, de petites communes, n'avaient pas de bâtiment à dédier au conseil municipal et de local pour conserver ces archives municipales. Et donc la loi de Guizot, 1833, qui établit l'enseignement primaire dans la plupart des communes rurales, vous pouvez voir le bâtiment encore aujourd'hui avec la mairie, bâtiment central, assorti de chaque côté, école de filles, école de garçons. Alors école de filles, école de garçons, ça a été surtout développé aussi par les lois Jules Ferry de 1882-84, qui elle a introduit la mixité dans l'école, mais pas dans le même bâtiment. C'est pour ça que les garçons étaient séparés des filles, et au milieu, il y avait la mairie. Et l'instituteur était assez souvent logé là, logé dans la mairie, et il était assez souvent aussi secrétaire de mairie. Donc les deux fonctions, municipales et d'éducation, sont très liées dans les communes rurales.
sur le fronton des mairies, la fameuse devise républicaine.
Alors, sur le fronton de la mairie, il y a la devise, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est évidemment très important. Il y a à l'intérieur de la mairie le buste de Marianne, mais aussi le portrait du président de la République. Et ça, ça a été institué dès que les mairies ont été créées, 19e, ça. Alors, il y a le coq.
Ça date de quand, ça?
Le coq. Ah, c'est très, très ancien aussi, le coq. Le coq, c'est d'abord une origine religieuse. Hein. Le coq, c'est le Christ qui sera renié.
Par Saint-Pierre.
Par Saint-Pierre, après, quand le coq aura chanté trois fois. Bon. Et le coq est devenu un symbole fort de l'identité française, parce que le coq a une crête rouge. Et le bonnet phrygien rappelle la crête du coq. Et le coq est fier et viril, courageux.
Et il se fait entendre.
Et il sait se faire entendre. Il est batailleur.
Donc c'est ce symbole-là qui est retenu aussi.
Ben oui, parce que beaucoup de coqs surmontent soit le clocher de l'église, soit d'autres
bâtiments
de la commune.
En tout cas, il figure quelque part.
Oui, il figure quelque part. Il y a un autre bâtiment qui est important aussi, c'est la poste. Parce que la poste, c'est l'organe qui permet la communication entre les citoyens. Et l'implantation de la poste est très importante. Elle existe bien avant, hein. Il y avait des postes, il y avait des routes postales bien avant la Révolution. Mais tout au courant du 19e siècle, l'établissement de la poste et du monument de la poste, enfin du bâtiment de la poste, a été très sérieusement étudié. Il y a une enquête très belle, qui est une enquête qui date de 1847, qui dans chaque commune de France qui étudie où se trouve actuellement le bureau de poste. S'il n'existe pas ce bureau de poste, où faut-il l'établir pour qu'il soit le plus accessible à la population? Et ça va même juste, dans cette enquête, elle va même juste sur l'ensoleillement de la rue. Est-ce qu'il faut mettre la poste au midi ou au nord? Eh ben, c'était très important. Donc la poste est importante parce que c'est aussi un lieu de sociabilité, et dans les communes rurales en tout cas. Et elle assumait beaucoup de fonctions, la poste.
Le curé et l'église, on l'a dit, hein, restent quand même
Le curé, l'église, l'église et le cimetière. Très important, le cimetière. Et c'est une des inquiétudes lors de fusion de communes, que lorsque une commune est poussée à fusionner ou être réunie à une autre, c'est est-ce que on va entretenir son cimetière? Je connais personnellement le maire actuellement, il y a une dizaine d'années, le maire d'une commune de la Somme, dont le territoire est formé de la réunion de 4 communes. Et il me dit, mais il faut que j'entretienne ces 4 cimetières. Tu peux pas savoir le budget, il y a plus qu'une seule commune. Je suis maire d'une commune, mais j'ai 4 cimetières. Et si je veux être réélu, il faut que j'entretienne mon cimetière. Enfin, les 4 cimetières. Donc le cimetière était aussi un lieu, et toujours un lieu très important.
La suite de l'histoire.
Le fameux panneau dont on parlait précédemment, oui. Là, sur lequel le nom apparaît,
oui.
Ça c'est aussi quelque chose de très symbolique qui pose les choses.
Bah ça c'est l'assise territoriale en fait.
C'est la signalisation.
C'est la signalisation, c'est pour signifier que là il y a une frontière. On rentre dans une commune, on sort d'une commune. Ces panneaux de signalisation ont été développés plutôt au début du XXe siècle. Lorsque les différents gouvernements se sont attelés à pousser les préfets et à gérer l'entretien et à développer le réseau routier. C'est très important. Mais c'est aussi un symbole de la commune. Ça veut dire, là, il y a une commune. Et d'ailleurs, les panneaux de signalisation, dans leur typographie, signalent bien que c'est une commune, mais il peut y avoir aussi des panneaux de signalisation qui signalent des hameaux. Et là, la typographie est en italique. Et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs sur la carte de Cassini.
Un mot ou lieu-dit.
Ou lieu-dit.
C'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Un endroit dont...
Qui n'a pas d'existence administrative.
Mais qui est connu sous le nom de...
Oui, c'est un endroit qui est connu par la population locale, mais qui n'a pas d'existence administrative, qui n'est pas cité dans les listes et les sources, les archives et les documents administratifs.
D'ailleurs, souvent, le lieu-dit est rattaché à une commune.
Tout
lieu-dit un tel, commune de.
Oui. Oui, oui.
Plus tard, bien sûr, le monument aux morts, qui va apparaître au milieu de la place ou devant l'église ou dans l'église parfois.
Oui, ah ben bien sûr, la guerre de 14-18 a fait tellement de dégâts dans les communes parce que on le sait bien, c'est essentiellement la population paysanne, enfin des communes rurales qui a fourni le plus gros bataillon des morts de la guerre de 14-18. Et beaucoup de communes, presque toutes d'ailleurs, ont érigé des stèles portant le nom des morts à la guerre de 14-18. Après, on a rajouté les morts de la guerre 39-45. Et dans certaines communes, il y a aussi le nom de la guerre d'Algérie.
Pour en revenir au symbole concernant le maire... L'étole qu'il met en travers.
La ceinture, oui. Je ne pourrais pas vous préciser la date d'apparition de cette écharpe, mais je pense...
En tout cas, elle est bleu-blanc-rouge.
Elle est bleu-blanc-rouge, bien sûr, c'est la couleur du drapeau français. Et je pense que ça a dû apparaître au moment de la grande loi municipale de 1884. Parce que quand on voit des images, des reproductions... de la fin du 19e et du début du 20e, on voit les maires déjà ceints de leurs écharpes.
Et ce drapeau bleu-blanc-rouge, il est présent évidemment dans les communes sous une forme ou sous une autre.
Ah oui, il est toujours affiché au fronton, accroché au fronton de la mairie, ça c'est sûr. Toutes les mairies de France ont le drapeau.
Alors à partir de 1884, la fonction du maire, qu'est-ce que c'est exactement ?
En plus des attributions qu'avait le curé avant 1789, il est devenu le responsable de la police, de l'état civil, des finances, l'établissement du budget, la discussion du budget au sein du conseil municipal. Il est devenu responsable de l'entretien des routes, de l'entretien de l'église, des écoles, tout ce qui relève du domaine public.
Il est installé où ?
Eh ben, le maire siège avec le conseil municipal à la mairie. Dans les grandes villes, ça s'appelle l'hôtel de ville. Et dans les communes, le maire est installé dans la mairie. Alors évidemment, dès les premières années de la constitution des communes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites communes rurales n'avaient pas de mairie. Donc les papiers de la commune, en fait, étaient conservés le plus souvent dans la maison du maire.
Pour terminer sur le maire, c'est sa principale activité ? Ou bien il peut, par ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui dans des petites communes, avoir un métier, agriculteur
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, ça n'a pas changé. D'ailleurs, la plupart du temps, le maire était choisi, dans les communes rurales, dans les petites communes, le maire était choisi parmi les gros cultivateurs. Il fallait un personnel un peu éduqué, qui savait lire et qui savait écrire. Et ça a d'ailleurs été une des grandes difficultés des premières années des communes, c'est de trouver le personnel compétent pour assumer les nouvelles fonctions du maire.
Est-ce que vous pensez, Claude Motte, que les communes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont très différentes de celles apparues fin 18e, surtout 19e ?
Leur nombre a peu évolué.
Il y avait le chiffre symbolique de 36 000 à un moment donné. On est un peu en dessous ?
On est à 34 865, c'est ça, 34 860 quelque chose. Dans la France
métropolitaine, c'est important de le préciser.
En fait, la France est toujours considérée comme une exception au sein de l'Union européenne, puisque le nombre de ces communes représente plus de 40% du nombre des communes de l'ensemble de tous les autres pays de l'Union européenne. Il faut chercher l'explication dans le fait que, à mes yeux en tout cas, la France est très attachée à cette démocratie de proximité. Le maire est le représentant de l'État dans la commune, mais il est tout autant le représentant de ses habitants vis-à-vis de l'État, par l'intermédiaire du préfet. Et donc le maire est vraiment investi d'une charge d'intermédiaire Et toutes les populations qui n'ont plus de maire craignent, justement, d'être livrées au bon vouloir du maire d'à côté.
Ça, c'est récent ou ça a toujours existé ?
Non, ça a toujours existé. Les habitants français sont très attachés à leur curé, puis à leur maire. Pour vous donner un souvenir personnel, ma maman est décédée à l'âge de 99 ans et plusieurs mois, et elle voulait rester en vie jusqu'à 100 ans, parce que dans sa commune, le maire se déplaçait à domicile pour venir féliciter
le centenaire
de sa commune. Et elle était mais très émue à l'idée de recevoir son maire.
Si on en revient un peu à la vie de ces communes, il y a des traditions dans les communes.
C'est un ressort administratif, on l'a vu. C'est un ressort fiscal, on l'a vu. C'est un ressort paroissial, on l'a vu. Mais c'est aussi un ressort censitaire, c'est-à-dire le cadre dans lequel la population est décomptée. Donc son nom reste gravé sur les documents officiels. Mais c'est aussi un ressort d'activité, c'est un ressort d'enseignement avec son école, c'est un ressort de police municipale, c'est un ressort de justice sociale, c'est un ressort de sociabilité avec les associations sportives, les associations culturelles, c'est enfin un ressort festif. C'est très important, la fête de la commune. Parce que la fête de la commune est souvent associée à la fête du saint, patron de l'église ou de la paroisse. Mais c'est aussi un ressort cérémonial. La commune et le maire, toujours en premier, sont donc au cœur de la vie des citoyens. Et quand vous êtes réunis à une autre commune, vous n'avez plus cette identité. Vous dépendez de quelqu'un d'autre.
À travers une fusion ?
Oui.
Pourquoi elles interviennent, ces fusions ?
C'est un problème d'argent. Beaucoup de communes sont trop petites. Depuis 1790, les gouvernements français ont voulu promouvoir la réunion, la fusion et la suppression de communes. Ils n'y ont jamais réussi, ou si peu. Par exemple, la loi de Marcellin de 1972-73, qui avait créé les communes associées, avec la permanence de la commune ancienne, qui devenait commune annexe, avec des incitations financières. Il y a eu à peine 1000 communes qui ont fusionné. C'est rien du tout. Et puis, il y a les dernières lois de 2010 qui instituent les communes nouvelles. Pas les nouvelles communes, mais les communes nouvelles. Lorsque plusieurs communes décident de se réunir, elles constituent ce qu'on appelle une commune nouvelle. Et les anciennes communes deviennent des communes déléguées. Elles conservent alors leur identité aussi, et c'est d'ailleurs bien précisé dans cette loi de 2010, il faut conserver l'identité des communes historiques.
Alors quand deux communes fusionnent, quel nom est-ce qu'on garde ?
Ah, grande bataille ! La plupart du temps, les deux noms sont associés. Le nom de commune le plus long aujourd'hui, qui a 45 caractères, c'est dans Marne, Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest et Isson. Donc c'est la réunion de trois communes. À l'inverse, le nom le plus court d'une commune, c'est Y. Y, dans la Somme.
I.
I,
d'accord.
Ça s'appelle I.
La plupart du temps, c'est peut-être quand même la commune la plus importante en termes de nombre d'habitants qui l'emporte. C'est son nom qu'on garde.
Souvent, mais pas toujours. Parce qu'il peut y avoir, si vous voulez, dans le territoire de la commune fusionnée, réunie, un monument connu. Et donc, pour la notoriété de la commune résultante, on prendra le nom de la commune dans laquelle est situé ce château connu.
Pour ne pas que le nom s'efface.
Voilà.
En général, ils viennent d'où, ces noms ?
Ils sont très, très anciens. Il y en a un certain nombre de l'époque romaine. Et puis après, ça a été les constitutions des paroisses qui sont dénommés des saints, Saint-Martin, Saint-Jean, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle des agiotoponymes, ce qui a beaucoup posé de problèmes pour la poste, mais qui a posé aussi des problèmes. À la fin de la guerre 1917, il fallait identifier les corps des morts, et sur les listes de recrutement, il est indiqué Saint-Martin. Oui, mais lequel Saint-Martin ? Il y en a 322 en France, ou 232, je ne sais plus. Donc il y a eu une loi en 1919 qui a autorisé, et qui a même poussé toutes les communes homonymes, à assortir leur nom d'un supplément pour l'identifier. Donc aujourd'hui, dans le même canton, il n'y a plus de communes homonymes. Il y en a au niveau national, bien sûr, plein de Saint-Martin.
Mais ils sont assortis d'une caractéristique.
Assortis d'une caractéristique.
Qui permet de les différencier.
Oui. La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Les particularités de certaines communes.
Bah écoutez, je peux vous dire que 19 communes ont moins de 6 habitants. 6 ont 0 habitant.
Comment est-ce possible ?
C'est possible parce que ce sont des communes qui ont été complètement détruites pendant la guerre de 14-18 et qui ont constitué ce qu'on appelle la zone rouge. Ces communes avaient un territoire qui était truffé de bombes qui n'avaient pas toutes explosé. Il était interdit à la population de revenir sur ces lieux, mais par devoir de mémoire,
on les a maintenus
en tant que communes avec zéro votant et le maire est désigné par le préfet.
Celle que je citais au tout début de ces entretiens, Rochefourchat dans la Drôme, qui...
Un habitant.
Un habitant, ça c'est authentique. Hein.
C'est authentique, absolument. Rochefourchat a un seul habitant et elle existe toujours dans la Drôme. Mais aujourd'hui, nous avons plus de la moitié des communes françaises qui ont moins de 500 habitants. En France, la population médiane est de 450 habitants. En Belgique, elle est de 11 000 habitants. En Espagne, de 5 500, et en Italie, de 2 300 habitants.
Parce qu'aujourd'hui, une commune en France, c'est quand même important peut-être de le repréciser, c'est maximum combien d'habitants ? À partir de quand est-ce qu'on passe à la dénomination de ville ?
Il n'y a plus de ville en France. Vous avez des communes, vous avez des communautés de communes, vous avez des communautés d'agglomération, vous avez des communautés urbaines et vous avez des métropoles. C'est essentiellement fonction de la population, mais c'est aussi fonction de toutes les compétences qui sont attribuées à ces différents ressorts administratifs.
Les communes dont on parle, oui. C'est ce qu'on appelle familièrement les villages, en fait.
Communes, c'est ce qui constitue actuellement les communautés de communes. Vous savez qu'en France, avec le développement de l'intercommunalité depuis 50 ans, c'est-à-dire l'incitation financière pour pousser les communes à fusionner, ils ont dit, bon, alors vous ne fusionnez pas, vous gardez votre mairie, vous gardez votre maire, votre budget municipal, votre conseil municipal, mais vous mutualisez certains services, comme le service de l'eau, le service de transport scolaire, le service d'entretien de voirie, tous ces trucs-là. Bon. Et actuellement, l'entièreté des communes françaises font partie d'une communauté de communes, sauf 4. Et pourquoi 4 ? Parce que ce sont des communes insulaires qui, à elles seules, recouvrent la totalité de l'île. C'est l'île de Bréa, Ouessant, c'est l'île de Saint, c'est l'île, puis la quatrième m'échappe. Et ce sont les seules qui sont en même temps communes et communautés de communes. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la Révolution française a voulu rationaliser tout le réseau administratif. Ça a été rendu possible encore plus par l'établissement du cadastre. Et ça a été à ce moment-là, d'ailleurs, que beaucoup de communes ont modifié leurs limites. Bon. Mais, en principe, une commune a un territoire d'un seul tenant. Eh ben non. Il existe quand même toujours des exceptions. Par exemple, 2 communes en Corse qui ont des territoires totalement enclavés dans le territoire d'une autre commune. C'est Moncal qui est enclavé dans la commune de Calanzana et en Vendée, la commune de Talmont, qui était jusqu'en 1974 totalement enclavé dans la commune de Saint-Hilaire-Talmont. Il y a quelques autres exemples dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, des territoires disjoints du territoire communal. On appelle ça les forêts reculées.
Quelle est la commune la plus haute en altitude ?
C'est Tignes, qui est située à 2100 mètres. La plus basse, c'est Quimper, car une bonne partie de son territoire est 5 mètres en dessous du niveau de la mer.
Alors, on assiste actuellement à des difficultés de recrutement des candidats aux élections municipales. Certaines communes ont du mal à trouver un maire. D'après vous, ça vient de quoi ?
Ça vient de ce que les fonctions du maire se sont énormément alourdies, énormément diversifiées, et surtout que maintenant, elles sont assorties d'une responsabilité pénale, et même des agents municipaux. C'est très dissuasif. Certains maires actuels ne souhaitent pas se représenter, ce qui est assez étonnant, parce que c'est une fonction qui est assez honorifique au sein de la population. Mais la responsabilité pénale du maire peut être engagée, par exemple, si un enfant se noie dans une piscine privée parce que le maire n'a pas vérifié que le propriétaire de cette piscine avait bien couvert sa piscine. Il peut être responsable d'un accident sur une piste de ski parce que les rubans rouges qui délimitent la piste se sont envolés. Et je voudrais rajouter aussi le poids de la législation et des lois qui s'enchaînent les unes aux autres, des décrets d'application qui sont pas toujours très rapidement énoncés, tout ça fait que les maires, surtout dans les petites communes. Mais aussi dans les communes moyennes, ont beaucoup de difficultés à assumer leur rôle.
Et ils se sont d'ailleurs se rassemblent à travers des rassemblements nationaux des maires de France.
L'Association des maires de France a été créée en 1907 et elle fait suite justement à la loi de 1884 qui a accru beaucoup la responsabilité du maire en lui confiant l'autonomie de la gestion des biens de sa commune.
Merci beaucoup Claude Motte de nous avoir permis de découvrir cette histoire des communes de France. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche au CNRS. Encore un très grand merci à vous.